Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
La nuit de l'after continue, l'after foot en direct de Manhattan au Café Luce. Manhattan qui ne verra pas l'équipe de France dimanche puisque c'est l'Espagne qui se qualifie 2-0. Une victoire nette et sans bavure qu'on est en train de débriefer avec Julien Laurence, Maxime Chano, Walid Acharchour, le 32-16 également. Et c'est vrai qu'il est chaud ce débrief parce que c'est un match qui est... terrible en fait pour l'équipe de France qui était favorite de cette Coupe du Monde et qui a été battue par plus fort. Et c'est vrai que là on cherche des explications et qu'on a tous une grosse paire de boules, c'est la vérité. Ah, on le voyait pas ce match, on le voyait pas venir. Faut dire la vérité. Hein.
On est déçu.
Le risque existait, mais on le voyait pas venir. Voilà,
c'est vrai. Après. Le sentiment que tu as finalement, c'est de sortir sans avoir vraiment joué. Et c'est ça le plus frustrant. Ça m'aurait moins dérangé de sortir au pénalty ou de perdre comme ça on a perdu en 2022 contre l'Argentine.
Ou alors qu'il se passe quelque chose à un moment de ce match.
Où tu te dis à un moment donné, tu vibres.
65, 70, t'es anesthésié et d'un coup la révolte arrive par un joueur, par un coup du sort.
Il
n'y
a pas eu de révolte, le contenu a été très très moyen et puis tu sors de cette Coupe du Monde en disant finalement, presque tu remets presque en cause et en considération ce qu'a fait l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. Tu te poses la question si. Finalement contre le Sénégal, c'était pas un petit Sénégal. Tu te poses la question en te disant
alors
finalement,
après, tu est-ce sais que ça, Maxime, on va voir mais ce que donne la finale. C'est-à-dire que si l'Espagne est encore dans ce schéma, anesthésier son adversaire qui sera encore différent, et ben alors on dira bravo
bien
et
sûr.
On pourra se dire qu'on a des qualités.
Mais
en revanche, si jamais l'Espagne est battue, alors par l'Argentine, j'arrive pas à l'imaginer,
j'y crois pas
mais
non plus, même l'Angleterre.
Ou par l'Angleterre, là, peut-être qu'il faudra remettre en question beaucoup de choses sur l'équipe
après,
de France.
C'est toujours un match spécial entre l'Espagne et la France. On l'a vu, hein. D'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont fait évoluer leur niveau. Enfin, honnêtement, ça, c'était presque le jour et la nuit par rapport à ces deux équipes. Bon, sentiment de voir une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. Mais juste pour terminer, ce que je te disais un peu plus tôt, finalement, malheureusement, ce match me fait remettre en considération ou en question ce que j'ai pensé de l'équipe de France. Je le dis depuis le début de cette compétition, c'est l'équipe qui m'a fait le plus kiffer. J'ai adoré. On a mis en avant pas mal de qualité, pas mal d'individualité, pas mal de choix tactiques d'ailleurs de Deschamps aussi, et
des
notamment
buts,
son turnover
aussi, des très beaux buts.
Et finalement, un peu à l'instar de ce qui s'est passé pour le Maroc, je dis le match dernier contre l'équipe de France, je me dis finalement, est-ce que le Maroc ou est-ce que l'équipe de France n'a pas juste bénéficié d'un parcours facile, tout simplement parce que dès qu'elle joue contre une grosse nation, en l'occurrence l'Espagne, tu te rends compte que c'était très très moyen.
Alors continuons l'évaluation et je pense qu'après Lucas Digne, il faut parler des quatre attaquants. Et je vous propose d'ailleurs de parler des quatre dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai du mal à dire c'est un tel. Je veux dire, les quatre ont été extrêmement décevants, mais rien que dans la qualité technique. Je ne parle même pas des inspirations, je ne parle pas des circuits, je ne parle pas de l'entente entre les quatre. C'est individuellement. Mais que s'est-il passé dans ce match ?
On est passé des quatre fantastiques aux quatre invisibles. Franchement, c'était déconnecté.
Mais alors pourquoi ? Pierre, je dis pas qu'on fait dans le désordre, mais est-ce qu'il vaut mieux pas finalement comprendre la base un petit peu de ces carences offensives françaises aujourd'hui? La raison, c'est aussi dans le parcours de balle, c'est-à-dire dans les passes, dans les relances depuis derrière. Les Français, Walid l'a dit très justement un peu plus tôt, la problématique des Mbappé, des Olise, des Dembélé, c'est quand ils recevaient le ballon, ils étaient à 70 mètres de leur but. Ouais. Donc évidemment, tu joues pas de la même manière que quand tu joues contre le Paraguay et que tu fais front devant la surface de réparation paraguayenne et que tu es à 16 mètres pour pouvoir tirer et mettre une patate en lucarne. Les Français, aujourd'hui, il faut remettre dans le contexte, il faut recontextualiser, je répète, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont tellement été étouffés par l'Espagne. L'Espagne les a tellement asphyxiés que quand les Français avaient le ballon, eh bien, tout simplement, ils étaient déconnectés. Ils étaient déconnectés du quatuor offensif. La perte de Rabiot a évidemment pas aidé, on le dit, dans le relais du ballon, entre la défense et l'attaque. La vérité, c'est que c'était l'ombre d'eux-mêmes parce qu'aussi, ils ont été mis dans un contexte qui ne leur a pas permis d'exprimer leur qualité. Et puis derrière, ils ont été asphyxiés par les individualités. Walid disait Pedro Porro, mais Pedro Porro, je suis d'accord avec toi, c'était de base pas un grand. D'ailleurs, il a commencé le tournoi en étant remplaçant de Llorente. Finalement, aujourd'hui, il gagne sa place. On parle de la culture de l'instant.
Pedro Porro.
Oui, on parle de la culture de la performance monstrueux. De l'instant. Mais il a été monstrueux. Mais ça fait trois matchs qu'il est monstrueux, Pedro Porro.
Ouais.
Laporte,
donc,
il est exceptionnel. On parle d'Upamecano. Upamecano, Laporte, pour moi, c'est les deux meilleurs centraux de cette compétition. Cucurella, c'est le meilleur arrière gauche. Donc aujourd'hui, tu tombes sur.
Mais regarde, par exemple.
Et tu tombes sur quatre joueurs défensifs. Et on va même pas parler de Rodri, qui est pour moi l'un des meilleurs milieux défensifs de cette compétition. Et en plus de ça, donc pour parler de squature, tu joues contre 5 mecs qui sont au top de leur forme, sans parler du gardien Unai Simon. Et ce que vous avez
Maxime,
vu les sorties qui
venaient, Unai Simon est exceptionnel.
C'était exceptionnel
de 2014 de Unai Simon. C'est des vraies occasions, hein, les deux ballons qui coupent très haut.
C'est meilleur 2014,
c'est Mbappé. Après, Doué doit faire mieux sur la deuxième. Hein.
Doué
veut tenter le lob alors qu'il a une option à droite, voire même Mbappé à l'intérieur.
En tout cas, s'il tente le lob, il va me mettre un vrai ballon.
L'intelligence de jeu des quatre derrière, Walid, sincèrement, pour contrecarrer les quatre fantastiques, comme a dit Julien, qui étaient les quatre fantomatiques ce soir, c'est que moi, j'ai été subjugué par leur science de déplacement, la gestion de la profondeur, la gestion
des... On va parler des Espagnols, mais parlez-moi. Si vous voulez, on les prend à part le match d'Mbappé, Walid.
Non, mais moi, Mbappé, en fait, le débat, il est beaucoup plus global que sur le match. Le match, il est décevant. On se rend compte aussi avec Kylian Mbappé, malheureusement, même s'il a fait une très très grosse compète, que quand le niveau s'élève et que le collectif autour de lui, est dans la machine à laver, c'est souvent élimination en club et même en sélection. On pouvait penser qu'en sélection c'était différent, mais là depuis 2022, entre l'Euro 2024 où il a pas été bon à cause de son masque et là le match contre l'Espagne où il est transparent, il y a 2-3 questions à se poser. Mais moi sur le match, en fait, moi je lui demande de pas être ce playmaker là. Ce soir, il est en bout de chaîne, il est pas touché, il est pas utilisé en première mi-temps, il fait pas des mauvais choix. Son match, il me dérange moins que celui d'Olise et Dembélé ou de Tchouaméni. Okay.
Parce que pas sur Mbappé,
par contre, après avoir dit ça, son match me dérange moins que ceux que je viens de citer, parce que il est en bout de chaîne. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que ça ouvre 2-3 questions aujourd'hui sur les collectifs autour de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, quand le niveau s'élève, comme avec le Real Madrid, comme avec l'équipe de France depuis 2022, c'est-à-dire qu'il est sur une séquence où Mbappé égale élimination. Alors qu'à un moment donné,
c'est-à-dire que tu veux dire que malgré ce qu'on a pu penser, une équipe où qui contient Kylian Mbappé, le collectif n'a pas réussi à mener sa mission
le Mbappé providentiel aujourd'hui ne fonctionne pas ni en club ni en sélection. Et c'est pas faire injure à Mbappé en fait, parce que moi Mbappé fait une très grosse Coupe du Monde. Mais aujourd'hui on pensait il y a encore 2-3 ans que Mbappé solo, et si on mettait tout en œuvre pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions, tu gagnais des trophées. Aujourd'hui, tu n'en gagnes plus. C'est malheureusement, c'est factuel, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait une mauvaise compète, il a fait une très grosse compète.
Mais
je dis pas que c'est de sa faute. Je dis que ça soulève quand même 2-3 questions, parce que de l'autre côté, même si Pierre ne veut pas parler de l'Espagne, mais c'est important de comparer. Pas tout de suite. Moi, je veux comparer. Aujourd'hui, entre Yamal et Rodri, qui est le joueur le plus important du côté de l'Espagne?
Rodri,
il y a 2 ans c'était Yamal.
Non, il y a 2 ans c'était aussi Rodri et Ruiz en 2024. Parce que ce match-là nous montre encore une fois que quand le niveau s'élève, comme avec le PSG, les milieux de terrain sont plus importants que les individualités là-haut. La machine à laver, la salle des machines est beaucoup plus importante. Et qu'à un moment donné, quand le niveau s'élève, Mbappé qu'il est, même s'il marque à l'aller au retour contre le Bayern, il prend la porte. La même chose avec l'équipe de France. Même si Mbappé, il a réussi à marquer contre le Paraguay, contre le Maroc, contre la Suède, contre le Sénégal, contre l'Irak, contre la Norvège, contre la Norvège, il prend la porte. Et moi, je trouve que ça ouvre des questions quand même, sans lui jeter la pierre. Je trouve que ce projet-là est périmé. Ce football-là est périmé.
Et je suis d'accord avec toi. Le football moderne se tourne de plus en plus vers des équipes, en tout cas, qui privilégient le collectif à l'individuel. Et on l'a vu notamment avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Son projet collectif a pris le dessus sur le projet lorsque Kylian Mbappé était là.
C'est plus dur à faire en sélection.
C'est exactement la même chose avec le Bayern Munich de Vincent Kompany. Guardiola a essayé de le faire pendant plusieurs années aussi du côté de Manchester City. Donc je suis d'accord avec toi, Walid, et je pense qu'on va devoir de plus en plus d'équipes se tourner vers un collectif plutôt que sur des individualités.
Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on a cru que c'était la Coupe du Monde des individualités parce qu'elles ont beaucoup embrayé. Et au final, c'est l'Espagne qui, à part Yamal, mais qui n'est pas dans une grande compète, n'a pas cette star, n'a pas ce joueur qui sort sort du lot, mais qui va aller au bout.
Et c'est un peu la même chose avec la Norvège, par exemple, où est-ce qu'il y a quand même un collectif avant tout. Enfin voilà, il y a des équipes qui ont surpris cette année, en tout cas, les équipes nationales, c'est aussi des équipes qui se sont appuyées sur un collectif.
T'auras sûrement PSG Arsenal en finale de Ligue des Champions, PSG Arsenal en finale de Ligue des Champions, et l'Espagne qui va peut-être gagner la Coupe du Monde, et il faudra faire un état de lieu aujourd'hui sur le football.
Bien sûr, mais ça, et c'est bien, ça rejoint ce que tu veux dire. Par contre, je te trouve assez dur de alors pas de remettre la faute à Mbappé, mais indirectement, quand tu dis que Mbappé égale élimination, notamment avec l'équipe de France, là je te trouve un peu dur parce que finalement, moi, je trouve que c'est le... Il est en bout de chaîne sur cette élimination.
Il aurait pu faire mieux, c'est le capitaine.
Il est en bout de chaîne, c'est-à-dire que pour moi, il a pas reçu les ballons. Ses lieutenants qui étaient Dembélé, Olise, Barcola ou Doué ne l'ont pas non plus servi et mis dans les meilleures dispositions. Donc finalement, c'est une faillure qui pour moi collective. Ça, c'est une première chose.
Non, mais tu penses que c'est pas un échec pour Mbappé dans sa tête ce soir?
C'est une faille ou une fêlure, mais c'est pas une
faillure.
Tu l'as fait en anglais.
On a une tape d'anglophone. En anglais, Julien ça va passer, Maxime,
Walid après
Walid,
trois
mais moi, je pense, Walid, attention, je suis peut-être prétentieux, je pense que tu seras le pire de nous.
Après trois semaines à New York, Walid, c'est anglais LV2 là.
Je suis comme Lucas Digne ce soir.
Le match de Mbappé, Julien.
Moi, pour moi, il est isolé, c'est difficile. Après, je pense qu'il se met beaucoup de pression aussi. Et que ça peut être compliqué, ça peut être compliqué pour lui. Mais ce qui me dérange un petit peu avec cette attaque à 4 là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai eu l'impression, encore une fois, on revient sur le travail de Deschamps, c'est qu'à un moment, Deschamps s'est dit, j'ai ces 4 là, finalement, on n'a même pas besoin de travailler trop les automatismes, on va leur donner un ballon et que ça va passer tout seul.
Effectivement. Mais t'es sûr de ce que t'assures? Parce que j'espère, en tout cas.
Moi, j'ai 14 ans de Deschamps derrière moi, sincèrement, je te jure. Alors là, j'étais moins à l'entraînement comme Fabrice ou Arthur ou Jean-Louis ou Flo. Donc,
clairement, Deschamps leur a dit un peu à la Aimé Jacquet avec Youri Djorkaeff et Zidane, vous faites ce que vous voulez.
En fait, vous êtes 4 et demi avec le Barcola ou Doué à gauche, tu vois, vous êtes 5 pour ces 4 postes-là. Et
ça va passer.
Voilà. Et moi, j'ai l'impression que parfois, et en fait, c'est ça le collectif de l'Espagne. Ton collectif de l'Espagne, c'est il est huilé. Pourquoi? Il est huilé parce que Dani Olmo, Fabian et Rodri, ça se comprend. Ça prend pas les mêmes espaces. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que nos 4 de devant à nous, comparé aux 3 milieux à eux, voire même à leurs 3 milieux et leurs 3 attaquants, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient les Espagnols et que nous, c'était un petit peu, vas-y, moi, je vais là, toi, tu vas là, moi, je récupère le ballon, qu'est-ce qui se passe? Je te donne un ballon latéralement, tu me la remets. Et qu'il y avait finalement pas cet automatisme-là du tout. Moi, je suis très impatient de voir ce que Zidane va faire. Alors peut-être qu'on ne faut pas trop prendre
attention. Zidane, moi Zidane avec le Real, c'était fantastique meneur d'homme.
Ouais. En tant que tacticien, c'était pas le meilleur.
Mais tacticien, il y avait pas grand-chose. C'était un magicien, de l'instant et de la motivation.
Oui, c'est vrai.
Mais pour le reste, il avait des grands joueurs et puis ça passait parce qu'ils avaient aussi beaucoup de chance.
Et en fait, moi, je te disais ça pas forcément de façon positive. Ouais, ouais. Moi, ils ont choisi Zidane. Très bien, la légende, tout ce qu'on veut, les joueurs vont l'adorer, génial.
Oui, au moins tu sais que les joueurs seront avec lui, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute.
Il y aura aussi les supporters et les médias avec.
Voilà.
Mais moi, je ne sais pas en termes de force collective ce qu'il va pouvoir apporter lui.
Mais t'as fait, il y a un problème. 11 minutes sur RMC, on va continuer Walid, juste parce qu'il y a Grégoire qui nous attend au 32-16. Grégoire, on arrive, tu paniques pas. Vous êtes très nombreux ce soir à nous écouter. Vous êtes encore 10 000 sur YouTube, donc c'est la preuve que c'est pas un soir comme les autres. Et on va vous faire de la place au 32-16. Walid.
Non, je disais que déjà par rapport à Zidane est le grand gagnant de la soirée. Mais ça c'est un aparté. Et pour revenir sur
attends, ça m'intéresse Walid. Pourquoi
Walid,
tu dis ça?
On s'en fout là, Zidane.
C'est parce que tu penses que la Coupe du Monde de Deschamps elle est ratée ou pas?
Mais non, aujourd'hui. Bref, c'est un aparté. Je pense que repartir sur une demi-finale, etc., par rapport au bilan de Deschamps, que de la gagner, il y aurait eu une pression beaucoup plus importante pour Zidane. Mais bref, c'est pas le sujet du soir. Pour revenir sur le débat des quatre attaquants, moi déjà pour moi, Olise et Dembélé ne sont pas compatibles.
Alors le match de Dembélé et le match d'Olise, rentrons dans
Par rapport à Mbappé, pour moi le duo est beaucoup plus problématique sur le match de ce soir que qu'il y a Mbappé. Pourquoi? Déjà parce que en fait on a fait ce système à 4 pour les deux. Pourquoi? Parce que Dembélé est obligé de trouver une place dans cette équipe par rapport à son statut de Ballon d'Or. Et je reviens à ce que je disais sur Luis de la Fuente. Pedri est sur le banc ce soir. et il y a personne qui moufte, d'accord? Donc on a fait ce système là.
Pedri a fait une moins bonne compétition qu'Olysée.
C'est pas possible, Walid. Avant le match, est-ce que tu penses que Deschamps Non, mais Walid, c'est important. Est-ce que tu penses que Deschamps peut se permettre de mettre, ou en tout cas, est-ce que ça aurait été logique de mettre soit Olysée, soit Dembélé sur le banc avant le match contre l'Espagne?
Pedri, écoute-moi bien. Non. Il a démarré le tournoi. Ouais. Il a démarré le tournoi. Ouais. Ensuite, il a mis Fabian Ruiz, ok? Dans un deuxième temps.
Qui était énorme, qui était très bon.
Attends. Il a fait un très bon match, Pedri, sur le match de l'Autriche. Sur le match de l'Autriche. Il est sur le banc contre la Belgique.
Il a sorti un joueur qui était énorme.
Attends, laisse-moi terminer, Maxime. Il était sur le deuxième match contre la Belgique. Il explique, il dit, Pedri ne peut pas jouer, je préfère Fabian Ruiz, parce qu'on ne joue pas comme le Barça. Et donc, Fabian Ruiz est plus indiqué à jouer dans mon équipe. Il n'y a pas un mec qui a moufté, alors que Pedri est un joueur, aujourd'hui, dans l'échiquier espagnol, très important. Je reviens à ma comparaison avec Dembélé. Dembélé, je suis pas en train de te dire qu'il fallait le sortir ce soir, mais dans la gestion des statuts, on a été immobilisé, même pendant les lectures de rencontre, même pendant les choix de jeu pendant la rencontre, avec les statuts qu'on avait. Et c'est à cause d'Olysée et de Dembélé. Parce que si on n'a pas ces deux joueurs-là, je suis persuadé qu'on joue en 4-3-3. Et le gros problème, c'est que quand on fait ce système-là, il faut que ces mecs-là soient au niveau technique et d'implication. Dembélé n'a pas été à son niveau, à son meilleur niveau technique, avec énormément de prises de balles défaillantes. Et Olysée, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'est fait manger par Rodri et il avait une implication qui n'était pas assez suffisante. La même chose quand il est repassé à droite sur le but d'Oyarzabal, sur le penalty provoqué. Et ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu fais ce système-là et que les deux mecs te crèvent, c'est que tu es
crevé. Tu dois faire autre chose.
Non, mais tu dois faire autre chose,
en fait.
Oui,
Walid, je suis d'accord avec toi, mais alors, c'est sur des changements pendant le match, mais pas avant le match.
Mais
pendant
j'ai pas dit
trop
ça.
Facile aujourd'hui.
Mais pourquoi, Maxime, tu dis ce que je veux pas dire? Je te dis que.
Ah, donc t'as pas dit ça.
Mais non, pendant le match, à partir du moment où Olysée et Dembélé te pondent ces performances-là, parce que moi je suis persuadé.
Pendant le match, on est d'accord, mais tu me parlais de Pedri et Fabian Ruiz avant le match.
Ce qui te dit, c'est que De La Fuente n'a pas été
immobilisé tributaire des
par
statuts.
Un statut ou quoi
mais,
que ce soit.
Pour moi, ça vaut le
choix et que ça a posé de problème à personne.
Pour moi, ça vaut uniquement avec Tchouaméni et
Koné. Non, parce que là, je te parle pas que d'une compo d'avant-match. Je te parle même dans une lecture de match. Et le problème, c'est que si Deschamps a envie de coacher, parce que là on parle pas des émissions que nous on fait, on parle de Didier Deschamps, s'il a un plan, s'il a envie, par exemple, si lui il se dit gagner contre l'Espagne, il faut que je mette un milieu à trois, que je mette Olysée comme au Bayern à droite, que je mette Barcola au Doué à gauche et Mbappé en numéro 9. Est-ce que il a les coronnes de le faire, Maxime Chano?
Je l'ai dit hier.
Réponds-moi.
On en a parlé hier.
Donc il ne peut pas.
On l'a dit hier. Je suis d'accord avec toi.
C'est un problème.
Je suis d'accord avec toi, Walid. Alors, j'ai été le premier d'ailleurs, à valider ce 4-3-3, parce que pour moi, avec ces quatre attaquants, je trouvais que il allait avoir des carences contre les grosses nations et notamment contre l'Espagne, contre une équipe
et
en
donc,
possession.
Si c'est un problème
avec toi, Walid.
Si c'est un problème, vu le match d'Olysée et de Dembélé, c'est une trahison des deux. Pierrot, c'est une trahison des deux parce que c'est à cause de ces deux joueurs-là qu'on est obligé de faire des compromis tactiques. Et quand ils te font ce match-là, quand Deschamps donne la confiance à ces deux joueurs là, ils ne peuvent pas te faire ces deux matchs là.
Juste la réponse tu l'as dit trois fois.
On est d'accord sur ce point là, Walid, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, j'essaie juste de me mettre à la place de Didier Deschamps. Quand tu regardes la Coupe du Monde, la culture de l'instant footballistique quand même, elle est drôle, hein, parce qu'il y a encore deux jours, tout le monde disait Deschamps c'est un génie, ce quatuor offensif il est exceptionnel, c'est peut-être la meilleure équipe de France, et tu l'as dit d'ailleurs, Walid, qu'on n'ait jamais vu, en tout cas en équipe nationale, c'est vrai ou pas?
Non, j'ai dit que
donc
c'était le plus grand défi du football français de gagner une Coupe du Monde avec quatre attaquants.
Toi, alors, c'est
avec
ça doit être Julien Laurent. En tout cas, il y a énormément de gens qui ont dit que ce qu'avait fait Deschamps, et notamment ce changement tactique pour mettre ce quatuor offensif, c'était un génie. Donc aujourd'hui, je trouve ça trop facile de dire ah, Deschamps aurait dû jouer avec 3 minutes de
terrain. Je te dis qu'à partir du moment où on a fait ce choix-là, les deux ne peuvent pas ce match-là.
Ça tourneront, Walid et Maxime, même si c'est très intéressant. On est sur l'évaluation des joueurs, on est sur les attaquants, les matchs des attaquants. On va accueillir Grégoire. Salut Grégoire, 32-16.
Bonjour à toute l'équipe.
Et Grégoire, je t'ai fait patienter, donc je te présente des excuses parce que ça fait un moment que tu es là, je le sais.
Avec plaisir.
Vas-y, tu peux enchaîner.
Bah, c'est compliqué de passer après tant d'analyse. Hein. Tout a déjà été bien décortiqué.
Ne complexe pas, parce que sinon tu vas faire comme les Français face à l'Espagne. Là, tu es face à des mecs qui jouent à très haut niveau, mais toi, il faut que tu y ailles aussi, là.
Bon, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai un podcast qui parle pour moi en date du 27 juin dans les Grandes Gueules du Sport, où je dis qu'il faut être méfiant, qu'il faut être conscient qu'on va affronter des grosses équipes. Et j'ai un certain monsieur qui m'a ridiculisé à l'antenne, mais bon, c'est pas grave.
Dis-nous qui, c'est pas grave, maintenant que t'es parti,
un certain coach qui a coaché à Evian Tourneau. Pour pas le nommer.
Ah, Pascal Ducroix.
Ah, oui. Voilà,
ouais, Pascal. Mais Pascal, il est comme ça. Des fois, il a beaucoup d'assurance, mais c'est un gentil mec. Hein.
Non, mais
on lui passera le message quand même par plaisir. On lui rabatte son caca, on lui passera le message.
On parle football, il n'y a pas de souci, mais au moins j'ai le podcast en ma faveur, donc pour mon ego personnel.
Après, ça c'est dit pour ton ego. Maintenant, parle-nous du match et surtout des individualités.
Alors, je vais essayer de faire étape par étape. En tout cas, on va commencer sur Didier Deschamps qui râle sur l'arbitre. Il faut rester digne dans la défaite, sans mauvais jeu de mots. Franchement, l'arbitrage. Alors, c'est pas un arbitrage exceptionnel, mais c'est pas ça qui nous fait perdre. En tout cas, moi sur l'analyse globale, je pense qu'on s'est vu trop beau, ça c'est une certitude. On a fait preuve d'une condescendance ou au moins un excès de confiance, ça c'est une certitude. C'est la première vraie équipe qu'on affronte aujourd'hui, une équipe au moins top 10 mondial. Là on a affronté des équipes alors pas déconnantes, mais c'était vraiment le premier gros test ce soir et on n'a pas été à la hauteur. Un milieu de terrain dépassé, ça fait plusieurs matchs que je dis que Tchouaméni c'est compliqué, mais on l'a vu encore ce soir, très compliqué. Le Dembélé du PSG, le Dembélé de l'équipe de France, on a beau dire ce qu'on veut, alors on n'a pas le droit d'y toucher, mais on peut quand même aborder le sujet. Désolé, mais c'est deux personnes différentes. Le Olysée, mais si vous imaginez ce qu'on m'a dit sur Olysée, mais franchement, j'ose même pas le répéter tellement que c'est scandaleux. On m'a dit d'Olysée, mais on m'a dit tellement de choses, c'était presque Dieu, quoi. Et là, Olysée, il n'est pas à la table de Zidane, hein, c'est à peine à la table d'un toasty crusty, avec tout le respect que j'ai pour ce plat. Depuis le triplé contre l'Irlande du Nord, on s'est enflammé, mais ce que j'ai entendu, franchement, c'est pathétique. Et moi, j'ai eu des doutes sur. Alors, c'est un bon joueur, il y a pas de sujet. Mais moi, j'ai un Olysée.
C'est un super joueur qui a raté son match. Et on le prendra en compte quand on évaluera sa carrière. Il y a pas de souci là-dessus. Mais dire qu'on s'est enflammé sur Olysée, mais qui ne s'est pas enflammé sur Olysée? Tu as vu la saison qu'il fait. Ouais. Attends, il est exceptionnel.
Et même la Coupe du Monde, il a été bon. Un peu moins sur les deux derniers matchs, mais c'est la Coupe du Monde. Il a 5 passes décisives, messieurs.
Moi, je crache pas dans la soupe. Franchement, on fait un mondial qui est tout à fait honorable. On perd en demi-finale contre l'Espagne. Franchement, c'est honorable. Maintenant, moi, j'ai un Olysée qui a pas été à la hauteur avec le Bayern Munich contre le PSG sur le match retour. J'ai un Olysée là qui a pas été à la hauteur sur l'Espagne et qui fait un mondial.
Il a été à la hauteur sur le match aller quand même, Grégoire.
Bien sûr.
Ouais, mais le match qui compte le plus, c'est le retour. Il a raison.
Mais le match retour fait mal. Mais voilà, bref. Après,
ouais, mais regarde. Je trouve que c'est une comparaison qui est intéressante. Parce que en Ligue des Champions, t'as deux matchs. T'as un match aller, un match retour. On a vu deux matchs complètement différents. Et le match retour, Luis Enrique l'a gagné tactiquement. C'est-à-dire que le match aller, t'as montré la qualité des joueurs, la qualité du Bayern, à la fois individuelle et collective, mais il est tombé sur un os parce qu'il y a un mec qui a été plus malin que lui en face. Le match retour ne change rien à ce qui s'est passé au match aller. Et je pense qu'aussi, on peut se permettre de se dire qu'aujourd'hui, on est tombé sur un os. Tactiquement, collectivement, on n'a pas trouvé de solution. Ça ne veut pas dire que cette équipe de France, elle est à chier et qu'elle est à jeter
et que
Olysée, c'est un bon joueur et sans plus, et que Dembélé, c'est un bon joueur ou un ballon d'or par défaut. Non, on est aujourd'hui tombé sur une équipe d'Espagne qui nous a tout fait. Ils nous ont tout fait.
Ne jetons pas tout à la poubelle en disant qu'Olysée,
c'est un joueur mid et que Dembélé, il a pas mérité son ballon d'or.
Je le répète, franchement, moi je suis fier de cette équipe de France, il n'y a pas de sujet. Merci à Didier Deschamps, et merci à Kylian Mbappé qui fait un bon mondial. Je veux juste qu'on arrête de s'enflammer à chaque fois. franchement, je vous le dis, je le répète encore, ce que j'ai entendu. Moi, je suis. Il y a des grosses déceptions ce soir.
Non, mais tu sais aussi. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est qu'en fait, si on fait les pisse froids pendant toute la compétition, à dire l'équipe de France est moyen,
c'est trop facile,
on va attendre la demi-finale.
En fait,
voilà. En fait, c'est quoi? On est visionnaire. Faut qu'on soit boule de cristal.
On s'est chauffé.
Oui, non, mais
déjà, il y a un truc, c'est qu'un débat, c'est pas un pari sur l'avenir. C'est pas. C'est pas. On va vous dire ce qui va se passer. Non, on commente ce qu'on voit.
Et puis surtout, quand on fait des débriefs de matchs, on débriefe les matchs. Moi, j'ai jamais dit l'équipe de France va être championne du monde. On a fait des avant-matchs sur l'Espagne.
L'Espagne. Si c'est toi, Walid, mais je l'ai entendu partout.
Non, d'accord, Grégoire. En fait, c'est pas grave que tu l'aies entendu.
Grégoire, sur Olysée, par exemple, on a le droit d'être emballé par son style, par ce qu'il fait sur terrain. Maintenant, on a le droit aussi de le critiquer et de dire. Tu vois, par exemple, pour moi, Olysée était sur les bases d'une Griezmann 2018 ou 2022. Au final, ce sera Payet 2016 et il reviendra plus fort en 2026.
Non, mais il
a été très bon sur le début de la compétition, c'est factuel. Il s'est troué sur le match contre l'Espagne et contre le Maroc. Il a pas été grandiose ni contre le Paraguay. On peut le dire. On peut dire que oui, peut-être que moi, je kiffe Olysée. Moi, Olysée, c'est un joueur. Je paye mon ticket pour aller voir ce joueur-là. Maintenant, ce soir, il s'est fait manger par un ballon d'or, par un mec qui va faire peut-être 2024-2026, qui est peut-être l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps, qui s'appelle Rodri. Bah voilà, il reviendra reprendre son ticket dans 2 ans et voilà, il a failli, mais c'est pas non plus très grave de s'être enflammé sur Olysée.
Tu veux, mais tu me remets plus jamais Payet et Olysée dans la même phrase.
Si tu m'as compris, la comparaison.
J'accepte pas une enflammade et qu'on me dit après. Il s'est fait manger par Rodri et puis voilà.
Par contre, personne a dit. Je sais pas qui a dit que il était à la hauteur de Platini et Zidane. Mbappé. Moi, j'ai dit que Mbappé, par rapport à ce qu'il a fait sur les 3 dernières coupes du monde, il est à la hauteur de Zidane et Platini, mais on n'a jamais parlé d'Olysée en disant qu'il était à ces étages-là. Il a même pas terminé un tournoi encore.
Je vous vise pas, mais c'est l'ambiance générale.
Bien sûr,
bien sûr. Heureusement, si tu t'enflammes pas sur cette équipe de France, mais dans ce cas-là, amuse-toi, allume ta télé, regarde la Ligue 1, et puis tu vas t'enjailler sur Angers. Non, mais là aujourd'hui, il faut être très honnête. Je veux dire, on s'est retrouvé, on a eu droit quand même à du très beau football. On a tellement reproché à Deschamps de s'ennuyer avec lui. Là, aujourd'hui, il nous a essayé de nous donner un peu de football champagne. On a des individualités qui ont brillé. Alors oui, certes, ça se termine mal, mais je peux pas te laisser dire qu'Olysée est un joueur moyen, que Dembélé est un ballon d'or par défaut. Non, non. Aujourd'hui, en tout cas, la façon de parler, on l'a entendu aussi. Voilà, la réalité, c'est que la France est tombée sur plus forte qu'elle, contre une Espagne qui est arrivée préparée, peut-être surmotivée aussi, parce que on le sait, c'est toujours des matchs qui sont un peu spéciaux. Et puis, tu m'enlèveras pas l'idée que la France, c'est vraiment son premier test match de la compétition.
L'Espagne
a joué contre le Portugal, contre l'Autriche, contre la Belgique, et ils sont arrivés préparés contre l'équipe de France. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, l'équipe de France, un peu à l'instar de tous ces matchs, elle a joué que 45 minutes, elle était irrégulière sur 90 minutes. Et quand tu joues contre une Espagne comme ça et que tu perds 1-0 à cause d'une erreur de Digne, on va pas revenir dessus, et c'est compliqué d'inverser la
tête. Moi, je crois beaucoup à ces montées en puissance, dans les tournois comme ça.
Oui, sincèrement, mais tu le vois tout le temps d'ailleurs. Je joue collectivement comme individuellement.
Et c'est pour ça que j'ai très peur pour l'Argentine demain aussi, parce qu'ils ont finalement un parcours qui est similaire à celui de la France.
Ouais.
Alors que les autres, l'Angleterre un petit peu moins que l'Espagne.
L'Angleterre monte en puissance.
Mais l'Espagne, c'est sûr aussi, qui sont montés en puissance après une phase de groupe un peu plutôt.
Et l'Argentine, il y a 4 ans, avait fait ce parcours-là aussi. Mais quand tu vois les États-Unis, alors évidemment, il y a moins de talent, mais on s'est un peu emballé au début sur les États-Unis. Et puis rapidement, le coup près est tombé.
Mais moi, je suis quand même. Sur Olysée, juste pour finir par rapport à ce que disait Grégoire. Sincèrement, la déception d'aujourd'hui d'Olysée, je comprends pas trop en fait. Un joueur aussi talentueux, aussi fort, de passer autant au travers. Alors Rodri par Rodri, d'accord, c'est un super joueur, Walid a raison. Après cette saison avec Manchester City, Rodri c'est Rodra, c'est sa sœur jumelle.
On en a vu des mecs comme ça, Vieira en 2006, quand là, il arrive, il n'avait pas mis un pied devant l'autre, il arrive en équipe, il a fait une coupe incroyable.
Mais qu'Olysée ne trouve pas de solution à un moment, dans un match pareil, jusqu'à la 71, il sort à la 72e, un truc comme ça, avant la pause fraîcheur ou je sais pas quoi, qui trouve à aucun moment un peu d'espace, une meilleure première touche de balle, je sais pas, quelque chose, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Oui, collectivement, on est beaucoup moins fort, donc à un moment, il est aussi en souffrance par rapport au collectif français. Mais qu'un joueur de cette qualité-là ne trouve pas, tu vois,
sur ce qu'a dit Walid et Grégoire, juste quand Walid, tu dis on débriefe les matchs, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'exemple type, c'est Mbappé. Tout le monde sait que c'est un joueur hors norme, qui a une très grande carrière, qui restera dans l'histoire du foot. Et puis parfois, quand il fait pas bien, on a le droit de le dire. Et bien puis sûr. C'est pas grave du
on
tout.
Est
et,
puis
quand,
qu'il est.
Et quand Walid dit que collectivement, il y a un truc à régler avec le Mbappé d'aujourd'hui, eh ben on a le droit de le dire sans qu'on soit censuré ou
je sais pas
ou livré à la vindicte populaire parce qu'on est des ingrats. Non, nous on aime le foot, on parle des matchs, on parle de ce qu'on voit.
Et le problème, tout c'est qu'aujourd'hui,
tout ça est à la fois la plus belle chose du monde et sans grande importance.
Hein. Il faut pas oublier un truc aussi, Pierrot, c'est que tu as joué la meilleure équipe au monde. Peut-être
exactement.
Qu'on était sur une dynamique qui pouvait réduire le gap entre les deux, mais c'est notre bête noire. En 2012, ils nous ont tabassés. Ah, en 2024, ils nous ont tabassés. En 2026, en 2025, c'est la même chose. Et en 2026, c'est la même chose. On a un match-up avec eux où on est en grande
difficulté. C'est le pire match-up pour nous, Walid.
Hein?
C'est le pire match-up pour nous.
C'est deux philosophies de jeu différentes. On a 20 ans de retard sur la conception du football entre les deux. On le sait. Ils sont en facilité face à nous. Et pour revenir sur Olysée, sur Dembélé et sur Mbappé par rapport à l'attaque à 4.
Juste, tiens un mot.
Très rapidement.
Un mot de Dembélé parce que.
Oui.
Ouais, vas-y.
Non, mais Pierrot, très rapidement.
En
fait, le football de très haut niveau, peut-être qu'on s'est fait aveugler aussi, d'accord? Par rapport à l'énergie du groupe, par rapport à ce que ça pouvait dégager, etc. sur les matchs. On reste quand même des êtres humains. On n'est pas des intelligences artificielles. On est des humains. On a un sentiment. On a peut-être une subjectivité dans nos propos. Il faut continuer de l'avoir. Mais ça nous rappelle que quand on est à ces hauteurs-là, Dembélé, c'est plus un ailier. C'est un joueur axial au PSG. Olysée, c'est un MOD, c'est un milieu offensif droit au Bayern. Et quand il est dans la densité, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'au Bayern, il joue pas numéro 10. Que Mbappé, est-ce que c'est un numéro 9 quand il y a les gros matchs? Eh ben, on peut se poser cette question-là. Et voilà. Et aujourd'hui, les doutes qu'on avait aussi.
On peut se demander, est-ce que Barcola est de ce niveau-là aussi?
Voilà. Les doutes qu'on avait en début de tournoi, qui ont été un petit peu diminués par rapport à l'adversité, par rapport à ce qu'ils nous ont montré aussi l'équipe de France. Et quand tu joues Nadal, tu joues pas David Ferrer, tu joues pas Andy Murray, tu joues Nadal et t'as joué Nadal là. Et face Allez. À Nadal, tes défauts sont grossis, ils sont grossis. Tes défauts.
On termine sur les Bleus. On va parler de l'Espagne et puis de l'autre demi-finale.
Moi je voulais justement faire la comparaison. Entre l'Espagne et la France, et Julien a dit, on parlait d'automatisme. C'est vrai qu'on a trouvé justement que cette équipe de France manquait d'automatisme, et à l'inverse, les Espagnols étaient prêts. Mais quand tu regardes un petit peu la composition d'équipe et que tu regardes où est-ce que ces joueurs jouent, quasiment ils jouent quasiment tous en Espagne. Donc en fait, il y a aussi cette façon de jouer. Quand tu arrives en équipe de France, il y a des certains qui jouent en première ligue, d'autres en Bundesliga, d'autres en Ligue 1, et donc tu arrives avec un melting pot d'idées de jeu qui sont différents. En plus de ça, si tu rajoutes à l'Espagne un Fabian Ruiz ou un Rodri qui a un vrai ADN, hein, Guardiola, Luis Enrique, c'est des mecs qui aujourd'hui, quand ils arrivent sur le terrain, ils savent quoi faire. Alors si tu, en plus de ça, t'accumules ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire les circonstances d'avoir déjà joué des matchs de très haut niveau contre le Portugal, notamment contre l'Autriche ou contre la Belgique. Et en plus de ça, t'as des joueurs qui arrivent et qui ont déjà des automatismes, parce qu'il faut pas oublier qu'aussi l'épine dorsale espagnole joue ensemble depuis un certain temps. Et tu joues contre une équipe qui est prête, qui joue dans la même direction, qui joue de la même manière, qui presse de la même manière. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que l'équipe de France, je pense, a failli. C'est parce que l'Espagne était beaucoup plus prête.
Merci à Grégoire au 32-16. On vous attend au 32-16 pour continuer de débriefer ces demi-finales. On va parler d'Argentine-Angleterre, Angleterre-Argentine. Et puis, est-ce que l'Espagne sera favorite quoi qu'il arrive dans cette finale, après la démonstration en demi, et puis cette constance tout au long de la compétition, en tout cas des matchs de poule. Vous êtes avec nous au 32-16, c'est la nuit de l'after en direct de Manhattan au Café Luce.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'after foot intégrale Coupe du Monde avec Julien Laurence, Maxime Chano, Walid Acharchour, l'équipe de France éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde par l'Espagne 2-0. Et c'est un after animé parce qu'évidemment on est très frustrés. Notre rêve s'est envolé et c'est la faute de l'Espagne, mais c'est amplement mérité. On est dans l'évaluation et je voudrais parler un peu des Espagnols. On a beaucoup parlé de Rodri, de Yamal, de Fabian, un peu d'Unai Simon, pas trop de Dani Olmo. qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qui est un très 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 grand joueur et qui dans ce rôle de 10 de l'équipe espagnole se régale. Il est on a l'impression que De La Fuente l'a mis dans les meilleures conditions pour ses qualités.
Ouais, alors déjà il y a deux ans il avait déjà été très bon à l'Euro, d'ailleurs contre nous aussi en demi-finale. Moi je trouve que c'est un joueur génial, alors qui parfois est même pas titulaire au Barça parce que c'est quand même un style particulier un petit peu. Mais quand tu le vois aujourd'hui, quand il est dans cet état d'esprit-là, quand il joue dans une équipe pareille, qui contrôle autant, c'est un régal à voir jouer, sincèrement. Et c'est toujours les bons mouvements, c'est toujours les bons déplacements, c'est toujours le bon choix, la bonne touche de balle, la déviation qu'il faut. Quand il faut jouer en une touche, c'est une touche. Quand il faut jouer en deux touches, c'est deux touches. Quand il faut faire un petit crochet, il fait le crochet. Moi, je trouve ça fantastique à voir. La talonnade pour Lamine Yamal sur l'occasion de Fabian Ruiz pour le 1-2.
Exceptionnel.
Incroyable. Moi, c'est cette intelligence de jeu-là que j'adore et que je trouve assez fascinant dans un groupe, dans une équipe espagnole où tu as des joueurs très importants, et lui je trouve qu'on n'en parle jamais assez.
Bah, déjà, il avait changé. On le précise aussi, n'est pas non plus titulaire à l'Atletico. Hein. Ouais. C'est quand même fou, tu as deux joueurs dans cette équipe majeure.
Baena, c'est plus par défaut, il joue là parce que Nico,
oui, tu vois, on est d'accord. Fit, sinon, on est d'accord, mais le choix est fait.
Oui, oui,
mais
c'est vrai.
C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre un mec qui est remplaçant à un autre poste en plus dans un club qui domine même pas son championnat.
Et ça montre que malgré le réservoir qui n'est pas à la hauteur de l'équipe de France, mais le projet de jeu, le profil, est toujours au centre de cette équipe espagnole.
Aujourd'hui, si vous devez choisir pour votre équipe entre Dani Olmo et Michael Olise, vous prenez qui?
Bah après, on va dire Olise. En termes de Coupe du Monde ou pas, ça dépend.
Tout dépend de l'équipe.
Une fois que t'as vu ce que t'as vu ce soir.
Tout dépend de l'équipe.
Non, mais bien sûr.
Parce que Dani Olmo est un joueur irrégulier avec le Barça de par ses blessures et de par ses performances. Et parfois, tu peux t'arracher les cheveux aussi sur son efficacité. Mais par contre, avec l'Espagne, c'est un cheat code. Avec l'Espagne, c'est un cheat code.
Dani Olmo
un joueur
est beaucoup moins polyvalent.
Et je sais pas si vous vous rappelez, mais contre l'Allemagne, Pedri s'était blessé en quart de finale à l'Euro 2024. Et c'est lui qui fait quart de finale, demi-finale, finale. Et c'est un joueur qui est très important dans le sprint final pour aller chercher l'Euro. Et là, il met Pedri sur le banc, pas que pour Fabian Ruiz, parce que aussi Pedri peut pas être le numéro 10 que Colmo représente en dans cette équipe d'Espagne, et il a des gestes fabuleux. Pour moi, il a les meilleures prises de balles du monde.
La première
touche qu'il a dans la surface de réparation, c'est impossible. Derrière, tu peux pas le toucher
Dani Olmo est beaucoup moins polyvalent qu'un Michael Olise, qui peut évidemment jouer sur le côté, qui peut aussi jouer dans l'axe. C'est vrai que c'est plus un joueur old school un peu, hein. C'est pour ça aussi avec le Barça parfois c'est compliqué de le positionner, parce qu'il faut absolument qu'il soit dans une équipe de possession, et c'est exactement le cas avec l'Espagne, et surtout qu'il puisse avoir justement cette faculté à pouvoir jouer entre les lignes. Là, je suis d'accord avec vous, c'est que techniquement c'est exceptionnel, honnêtement c'est élégant, il est incroyable. Il manque peut-être un petit peu de vitesse, mais d'un point de vue général, je trouve qu'il est très très intéressant et très très important pour l'équilibre notamment offensif de cette équipe espagnole. Et pour revenir par rapport au réservoir, par rapport justement, on parlait de la profondeur de banc, quand tu regardes quand même ce que l'Espagne est capable de faire rentrer, t'as encore Merino, t'as Ferran Torres, Nico Williams, Pedri. On va pas parler du gardien, mais t'as Raya quand même, hein, qui a été exceptionnel avec Arsenal. Enfin, je veux dire, t'as quand même un réservoir d'un point de vue qualitatif qui est quand même exceptionnel, hein, du côté de l'Espagne.
Mais il y a pas de Olmo. Et ce que j'aime chez Olmo aussi, parce qu'on parle toujours des stades, beaucoup de stades, de tout ce qu'on veut, ce que Ryan Cherki dit souvent, que lui par exemple, c'est pas un joueur de stade. Olmo, c'est pas un joueur de stade. Là, sur cette Coupe du Monde, il y a deux passes d'ess. Il a un tir cadré en 7 matchs.
Il fait jouer les autres.
Il a un tir cadré en 7 matchs. Et je vous dis pour l'Espagne, il a un tir cadré en 7 matchs.
Après, pour moi,
parce que son jeu, c'est pas les stades.
Pour moi, l'Espagne gagne le match avec les deux latéraux et les deux au milieu de terrain.
Oui, d'accord.
Est-ce que Pedro Porro n'est pas un joueur totalement sous-coté?
Ah non, mais les performances qu'il fait là,
tout le temps en Angleterre. Le fait qu'il joue à Tottenham peut-être aussi.
Moi, je le vois tout le temps en Angleterre. Ça, crois-moi, c'est parfois plus compliqué que qu'on a vu aujourd'hui.
D'accord.
C'est-à-dire moins bon.
Ouais, offensivement, parce que lui, à la base, c'est un piston droit, en fait.
C'est comme tous les joueurs qui se font dans le collectif. On va pas revenir sur l'équipe de France, mais un Ben Pavard à l'époque qui est champion du monde 2018. C'était pas un grand joueur. On l'a vu d'ailleurs sur la suite de sa carrière. Une fois qu'on lui donne un peu des responsabilités dans un grand club, ça devient difficile. Donc en fait, Pedro Porro aujourd'hui, il est facilité par le collectif très bien huilé de cette Test Espagne. Mais c'est la même chose avec Laporte. Laporte, c'est un bon joueur. Mais enfin, objectivement, la compétition qu'il fait, est-ce qu'on n'est pas surpris d'avoir un Laporte à ce niveau-là? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as un collectif qui est beaucoup plus fort et qui intègre les individualités de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle tu vois un Pedro Porro à ce niveau-là.
Mais tu vois, Porro, par exemple, attends, Vas-y, Valide.
Bah, non, parce que Coucou Orella, top recrue du Real Madrid. Il a encore fait un super match. Rodri, sur la fin de compétition, il va jouer le titre honorifique de MVP du tournoi s'il la soulève, parce que c'est le meilleur espagnol pour moi. Fabian Ruiz, encore une fois, après 2024, où faut rappeler que ça fait 3 mois qu'il n'avait pas joué, Fabian Ruiz avec le PSG. Il a eu une deuxième partie de saison très compliquée, comme Rodri. Les mecs, ils arrivent au meilleur niveau, au meilleur moment. On n'en a pas parlé, mais Koubarsi Laporte, c'est du Moi, le début du tournoi, quand on m'a dit Koubarsi Laporte, j'avais des gros doutes. Koubarsi, il sortait du Barça avec des cartons rouges contre l'Atlético. Laporte, il a été blessé cette saison avec Bilbao. Il n'a pas tout joué.
Ouais, il n'a pas été bon. Hein.
Mais sincèrement, les perfs sont très étonnantes des Espagnols. Hein. Si tu regardes les saisons que les mecs ont fait avec les blessures, avec les irrégularités et leur statut en club et ce qu'ils font avec l'Espagne, c'est hors du commun. C'est exceptionnel.
Mais parce que c'est huilé. Parce que c'est huilé. Le collectif, encore une fois, prend le dessus sur l'individualité. C'est le football moderne, c'est tout.
La seule chose que Pedro Porro rate aujourd'hui, dans la profondeur, c'est la seule fois où Barcola prend le dessus. Rappelle-toi, c'est le tacle qui rate. Ensuite, Barcola passe en sautant par-dessus. Il centre et le ballon est contré par Koubarsi. Il va en corner. C'est le premier corner pour l'équipe de France. Et le seul regret, un des autres regrets qu'on a par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est finalement t'as mis Barcola pour justement exploiter la profondeur. Parce que Porro, c'est là où il est en galère. Lui, la profondeur, la trajectoire, il est à la rue totale. Alors pourtant, c'est un joueur rapide. Il est pris à ce moment-là. Et tu le refais plus une seule fois, pendant le temps que Barcola est contre Porro.
Et après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'entrée de Doué et Kata aussi. Hein.
Ah, Kata.
Doué n'a absolument rien exploité. Alors, est-ce que maintenant l'Espagne sera favorite quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la demi entre l'Angleterre et l'Argentine?
Tous les jours, même face à l'Angleterre.
Après, ça sera peut-être des matchs différents, hein, parce que l'Espagne, c'est quand même poussif contre la Belgique, poussif contre le Portugal. Alors, est-ce que finalement le match contre l'équipe de France a pas un peu décuplé les forces espagnoles, et s'il devait jouer contre l'Angleterre par exemple, qui est pour moi la meilleure équipe entre l'Angleterre et l'Argentine,
le challenge le plus dur, ce sera l'Angleterre.
Tu dis que c'est des matchs poussifs. Moi, j'ai trouvé que contre le Portugal ou la Belgique, en fait, c'était implacable. C'est-à-dire que ça allait arriver à un moment. Moi, alors, on regarde pas les matchs de la même manière parce qu'il n'y a pas l'intensité émotionnelle qu'on met dans les matchs de l'équipe de France. Mais moi, je regardais ces matchs. Je te jure, Maxime, j'ai pas été inquiet pour eux.
Non, pas inquiet, mais t'es
la moindre seconde.
Transporté.
La Belgique, ils ont fait le max avec des miettes. La Belgique, pour moi, ils se sont fait massacrer par l'Espagne comme nous. Sauf qu'ils ont réussi un truc que nous n'avons pas réussi.
Ils ont créé des occasions.
C'est qu'ils les ont un peu plus agressés et que De Ketelaer a fait un grand match et qu'avec une miette, il aurait un but de la tête. Mais sinon, il n'y a pas un monde dans lequel la Belgique élimine l'Espagne.
En tout cas, ils se sont créés des occasions, ce qui n'a pas été forcément le cas de l'équipe de France. C'est la raison pour laquelle je dis peut-être que cette équipe de France, alors de 1, a été asphyxiée, a été bien surdominée par cette Espagne, mais aussi peut-être parce que l'Espagne avait à cœur de battre cette équipe de France, qui était considérée comme la deuxième favorite après eux.
Si on parle du match Angleterre-Argentine, on voit une équipe qui monte en puissance. L'Angleterre, on voit une équipe qui a l'air à bout de souffle. Alors après, il faut toujours se méfier.
Moi, je pense que l'Espagne, ils détruisent l'Argentine en finale.
Je pense que n'importe qui, France ou Espagne, aurait gagné l'Argentine
assez largement. Que raison,
on n'aura jamais la réponse pour la France.
Sûr.
Il faut toujours se méfier.
Oui, c'est vrai.
L'impression, on a la preuve ce soir.
Mais moi, je pense que l'Argentine ne peut pas récupérer le ballon contre l'Espagne.
Ouais.
C'est impossible. Ils ont ni les jambes, ni la culture.
Ils défendent trop mal.
Et puis surtout, il n'y a aucun pressing, il n'y a pas d'intensité chez les Argentins du tout. Les Anglais seraient sûrement plus capables de mettre de l'intensité, même si je pense qu'ils vont les attendre en bloc médian, si c'est une finale Angleterre-Espagne, et qui vont avoir ensuite l'impact physique, eux, que nous n'avons pas eu aujourd'hui, pour gêner les transmissions Rodri, Dani Olmo, Fabian, Rodri, même sur les côtés, parce que là, les Anglais seront très forts là-dessus. Ça, c'est sûr, je pense que Tourelle aura, lui, un vrai plan A, un vrai plan B, un vrai plan C, avec aussi une belle profondeur de banc. Je pense que les Anglais peuvent les gêner, mais je vois quand même l'Espagne.
Ouais, et puis les Argentins, j'insiste un petit peu dessus, mais quand tu regardes un petit peu leur parcours, Cap-Vert, Égypte, Suisse, Jordanie, ils ont encaissé contre le Cap-Vert, ils ont encaissé contre la Suisse et la Jordanie. Voilà, moi, les Argentins, pour moi, ils arrivent à bout de souffle. Physiquement, on l'a déjà dit, avec des mecs qui ont plus de la trentaine. Tagliafico, Paredes.
Et puis les statuts dont parlait Walid, c'est encore pire là pour Scaloni. Hein.
Oui, mais ça avéré, c'est assumé. En fait, on parlait surtout d'un point de vue athlétique. C'est vrai que l'Espagne a étouffé l'équipe de France. Alors, imagine contre les milieux vieillissants de l'Argentine. Après, ils ont un quelque chose qui est rationnel. Déjà, ils ont Messi. Et puis surtout, ils ont une grinta, ils ont une mentalité.
Les Anglais ont montré leur mentalité aussi. Et les Anglais ont 24 heures de plus pour récupérer. Enfin, les Espagnols auront 24 heures de plus pour récupérer avant la finale. Que l'Espagne ou l'Argentine.
Walid, qui tu vois entre l'Angleterre et l'Argentine déjà ?
Moi, je vois l'Angleterre. Moi, après, moi, encore une fois, L'Argentine, je l'ai déjà expliqué, mais ils ont trop été puisés dans leurs forces mentales et physiques, à l'image de Léo Messi, 39 ans, sur des matchs qu'ils auraient dû liquider bien plus facilement contre l'Égypte et contre le Cap-Vert. La même chose contre la Suisse. Et je vois pas sur, même si moi, je suis pas émerveillé par ce que fait, Thomas Tuchel avec l'Angleterre, et je trouve qu'aujourd'hui, on est très, très gentil avec le contenu anglais, mais je pense que sur l'aspect athlétique.
Je trouve. D'un match sur l'autre, il y a eu des bonnes choses.
On les a démontés un peu quand même l'autre jour, Walid.
Oui, on les a démontés, mais globalement, je parle pas forcément de nous, mais je dis que. Par rapport à ce que j'en attendais, moi, dans le jeu, toi, tu l'as fait, Julien, à plusieurs reprises, mais que ça reste décevant contre le Mexique. Moi, je trouve que c'est très létal et c'est très mission commando par rapport au carton rouge. La Norvège, la même chose. Et heureusement que Bellingham est dans ce rôle d'homme providentiel.
Même contre le Congo d'ailleurs, hein, tu peux rajouter.
Mais je pense quand même, moi, que sur l'aspect athlétique et le duo Kane-Bellingham, je vois l'Angleterre passer, moi.
On a loué le collectif de l'Espagne, mais il y a quand même deux joueurs hors normes là, hein. Kane Bellingham, ouais. C'est parmi les meilleurs de ce tournoi, qui compte énormément de grands joueurs.
Après, Messi va encore faire un gros match.
Quand tu n'as pas le collectif de l'Espagne et il n'y a que l'Espagne qui joue comme ça, ouais. C'est ces mecs-là qui font la différence quand même, hein.
Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je sens encore plus Bellingham.
Il arrive à un niveau stratosphérique aujourd'hui.
Ouais, alors encore plus Bellingham.
Il a quel âge, Kane?
Il aura 33 ans là.
Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il a jamais été aussi fort qu'à 33 ans.
Ça, c'est très rare quand même.
Ouais, hein.
C'est sûr.
Et Bellingham, il marche sur l'eau.
Après, n'oublions pas la passe d'armes entre Bellingham et Tourelle, qui peut-être laissera des traces.
C'est une passe d'armes. Attention, Tourelle, faut pas négliger son côté dingo. Moi, j'adore le mec, j'adore l'entraîneur, mais il peut fissurer aussi. Hein.
Il peut fissurer, mais il ne peut pas se passer de Bellingham. Bellingham les a sauvés deux, trois fois, au même titre que Kane.
D'ailleurs, en Angleterre, ça fait énormément parler.
On a parlé que de ça depuis trois jours. Même nous, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression qu'on a fait tous les jours, je ne sais pas combien d'heures, avec Walid, avec Max, dans toutes les émissions, dans toutes les tranches.
Alors que ça peut être une petite phrase anodine. Alors, c'est vrai qu'elle est prononcée par un mec qui a un tel chou-fleur.
Non, elle n'était pas. Crois-moi, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, on a parlé de ce bras de fer, entre guillemets. Enfin, les bras de fer ou power struggle, comme disaient les Anglais ou les Américains, où t'as vraiment ces deux forces alpha mâle. Mal alpha, pardon.
Ouais, on comprend.
C'est pas anodin, mais je pense que là, ils font la paix. Ils ont une demi-finale demain, une finale dimanche, potentiellement.
Mais après, Tourelle, c'est un mec qui aime ses joueurs. C'est-à-dire que tu peux sortir d'une embrouille sans trop de dégâts, je pense.
Avec Bellingham,
je pense que c'est
une histoire de vengeance entre ce qui s'est passé un peu avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire où Tuchel avait décidé de se passer entre guillemets de Bellingham, notamment par rapport à sa mentalité. Il lui avait préféré Morgan Rodgers, et aujourd'hui Bellingham qui revient en force, qui est peut-être le meilleur anglais, il lui fait payer, parce qu'il y a ce rapport de force qui est aujourd'hui en faveur de Bellingham, et ça se passe comme ça dans les vestiaires. Moi, je le disais un peu plus tôt, Pierre, moi ça m'est arrivé dans ma carrière de ne pas parler à un entraîneur pendant 6 mois. Ça n'empêchait pas de me faire jouer, ça m'empêchait pas de donner mon maximum sur le terrain. Voilà, ça fait partie d'une sélection, ça fait partie du football professionnel. Mais là, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et si l'Angleterre devait sauter contre l'Argentine, je peux te dire que ce soit Bellingham ou Tuchel, à mon avis, il y en a forcément un des deux qui payera les pots cassés.
On oublie quand même que Tuchel a quand même qualifié le comportement de Bellingham de répugnant. Imagine si Deschamps avait dit à la télévision ou à la radio française, Mbappé, il est répugnant, son attitude est dégoûtante. Tu vois, ça aurait été là, tu vois, la guerre.
Et après, sur ce match, il y a la dimension émotionnelle et rivalité entre ces deux nations. Quand même changer un peu la donne.
C'est incroyable. Non, sincèrement, c'est box-office. On est aux États-Unis. Pour ce match-là, il est à Miami, mais il pourrait autant être à Hollywood. Ce serait la même chose. Entre 86, Maradona, la main de Dieu, le but incroyable, le carton rouge de Beckham en 98, la guerre des Malouines, qui chantent encore dans le vestiaire, dans les tribunes, à tue-tête autant qu'ils peuvent.
Tu m'enlèverais pas l'idée que le match aurait dû être joué au Mexique, au Stade Azteca. Refaire le remake de ce qui s'est passé
après, est-ce que ça peut bouleverser l'équilibre footballistique de ce match? On présente les Anglais quand même favoris. Est-ce que cette dimension émotionnelle peut pas servir l'Argentine plus que l'Angleterre quand même?
Ah si, si, je suis d'accord avec toi. Bah, moi je pense que le seul moyen pour l'Angleterre de perdre, c'est si effectivement, un peu comme les Français aujourd'hui finalement, ils savent pas bien gérer ces émotions-là. Ouais. Parce qu'on ne parle que de ça depuis deux jours. Alors, outre la petite embrouille sur le Bellingham, mais ce que ce match représente en Angleterre, par exemple, tous les journaux, tout le monde, ils en ont fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je pense que si Tuchel ne gère pas bien ce côté très émotionnel et les joueurs aussi, ça peut être compliqué.
Et pour le coup, Tuchel n'absorbe pas ce genre de choses. Il est volcanique, il vit tout à 200%.
Et puis,
c'est pas un atout.
Les Argentins se nourrissent de ça.
Bien sûr.
Justement.
Voilà,
hein,
eux, ça leur donne
terrain,
de la force.
Évidemment. Donc, ouais, c'est dans l'intérêt des Argentins.
Alors, pour le coup, cette équipe anglaise a l'air un peu différente, mais. C'est vrai que quand tu te traînes 60 années, enfin 60 ans et autant de compétitions, d'échecs répétés, parfois simplement par malchance, pas par manque de talent ou etc. C'est vrai que c'est compliqué d'arriver sur un match comme ça à te faire peut-être manger le cerveau par ton adversaire. Ça va être un truc, peut-être même la clé du match en vérité. Hein.
Tout à fait. Le côté émotionnel et comment tu gères effectivement l'occasion. Même plus que potentiellement en finale. C'est ça là, c'est quand même une équipe qui vient de faire, qui a fait deux finales d'Euro consécutives, qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde 2018. Demi-finale perdue en 2018, pardon, quart de finale perdue contre les Bleus en 2022. Mais qui sont vraiment pas loin, tu vois, ils peuvent quasiment toucher le trophée.
En fait, on sait qu'ils en sont capables, un peu comme les Belges de l'époque.
Ouais, c'est ça.
Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Et c'est toujours le plus dur, hein.
Il y a quelque chose avec cette Angleterre, là, qui me saute un petit peu aux yeux, c'est que j'ai le sentiment que la pièce tourne en leur faveur.
Tu vois, du bon côté.
Exactement, du bon côté. C'est-à-dire, quand tu vois le match et le scénario,
quand tu vois contre le Mexique, même contre la Norvège,
t'es pas à l'abri, encore une fois, que l'Argentine sorte un match monstrueux ou Léo Messi, mais. Voilà, j'ai le sentiment que c'est leur année pour moi.
Pour boucler la boucle, on va finir sur l'équipe de France. On va faire un tout petit peu de fiction, 3-4 minutes. Un des problèmes de cette élimination, c'est qu'on rêvait tous une revanche contre l'Argentine, on va pas se mentir. Ouais. On la voulait, on l'aura pas et ça sera fini après parce que je pense que cette équipe argentine va voler en éclats. Ouais. Nous, on va partir sur autre chose avec peut-être beaucoup de joueurs similaires, mais on va partir sur un autre projet.
Bon, on l'aura peut-être.
Et on était tous persuadés qu'on allait les éclater en finale, non ?
On l'aura peut-être pour la petite finale, tiens.
Alors franchement, ça donnerait de l'intérêt à ce match pour la troisième place. Ouais. Et si c'est le cas, que faire ? Que doit faire Deschamps ? Est-ce qu'on remet les 11 ?
C'est un match
pour récompenser aussi ceux qui n'ont pas joué.
Oui, c'est vrai aussi.
Ah bon ? Oui. Voilà, l'Argentine, quoi.
Oui.
Walid n'est plus avec nous.
Non, si, je suis là.
Non, qu'est-ce que tu fais si tu affrontes l'Argentine au troisième match?
Franchement, Pierrot, j'en ai rien à cirer de cette troisième place.
Vraiment?
Je savais que t'allais dire ça.
Tu sais quoi?
Je savais.
Moi, si c'est l'Argentine, j'en ai pas totalement rien à cirer.
On peut gagner 100-0, j'en ai rien à cirer.
Ah, ok. 100-0, ce serait pas mal quand même.
Non, mais sérieusement, c'est le match du. Moi, pour moi, ce match ne devrait pas exister, hormis aux Jeux Olympiques.
Ouais, je suis d'accord.
Ça sert à rien du tout. Je vois pas. En fait, c'est la finale rêvée, c'était le France-Argentine. On l'a pas. Sincèrement, l'avoir avec les deux équipes B ou même avec les deux équipes A pour une troisième place à la Coupe du Monde, c'est moi. Sur l'autre question,
est-ce que tu étais toi aussi persuadé que France-Argentine, on les éclatait en finale?
Oui. Moi, je te le dis honnêtement, autant moi l'Espagne, j'ai toujours été mesuré pour le coup, et je respectais ce que pouvait faire l'Espagne, même si je pensais qu'on avait un truc à faire contre l'Espagne. Autant contre l'Argentine, moi je pense qu'on. Je passe pour un con en disant ça maintenant, mais je voyais un PSG Inter face à l'Argentine en finale.
Ouais, une boucherie, un match à sens unique.
Ouais, je suis d'accord.
Où on déroule quoi.
Ouais. Après, moi, je pense que l'Argentine ne va pas aller en finale, donc on parle pour rien depuis deux minutes.
Ouais, après, il faut se méfier quand même.
Faut se méfier de l'Argentine.
Il y a quand même cette dimension mentale. J'ai un doute toujours avec les Anglais.
C'est peut-être une erreur.
Tu penses, Max, que les joueurs vont vouloir jouer ce match?
Parce que c'est l'Argentine. Est-ce que c'est l'Argentine? Alors après, est-ce que Mbappé n'a pas déjà la tête en vacances? C'est le cas peut-être de certains leaders. Maintenant, Deschamps doit aussi finir en beauté, entre guillemets.
En tout cas, pas livrer une saloperie pour finir, quoi.
Non, et puis encore une fois, là, t'es sur une Coupe du Monde, t'es sur une compétition sérieuse. Les mecs, alors évidemment, la médaille de bronze, elle sert absolument à rien, mais c'est symbolique, c'est honorifique. Il parlait justement de mettre en avant ce sélectionneur, de le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Et ben, défaut d'avoir été chercher cette finale, au moins, ils iront lui chercher la médaille de bronze. Et puis, Deschamps rentrera chez lui tranquillement avec une médaille supplémentaire à mettre dans l'armoire.
Une troisième place.
Messieurs, merci beaucoup. Je vois Julien Cazard.
Oui, avec son t-shirt.
Il est chaud, il est chaud. Regarde, il est
boulevard
chaud.
Boulevard Ousmane. Et Ousmane.
C'est pas le bonjour.
Ballon.
Ah non, non, non. Pas ce soir. Mais
vous avez quand même oublié un truc. C'est que s'il joue Kylian, la troisième place, il peut devenir. Faire une stat incroyable, être pichichi de trois compètes sans en gagner aucune. Coupe du Monde, Ligue des Champions et Liga.
Tu sais que je crois de mémoire que Jules Fontaine a marqué 4 de ses 13 buts lors du match pour la troisième place.
Exactement.
Donc dans le trophée, bon, qui servira pas à grand chose, de meilleur buteur de la compétition, où quand même les meilleurs se sont tirés la bourre, ça peut compter. Hein. Il peut mettre des buts.
Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Il va vouloir jouer.
Ah ouais, il a rendez-vous avec l'histoire. Hein. Juste qu'on n'est pas dans son histoire. C'est
comment le Casar enchaîné va-t-il traiter un match aussi important et une telle déception? C'était un truc très premier degré en fait.
Oui.
Vous allez faire au second degré.
Nous on va rendre hommage à l'Espagne parce que personne le fait. Nous on va dire bravo les Espagnols parce qu'ils ont donné raison à tous les gens qui pissent sur Mbappé depuis un mois.
Ah ça, tu Merci. Parles de toi parce qu'il n'y a plus que toi, Julien.
Ouais.
Il n'y a plus que toi, t'es le dernier, je crois.
J'étais le dernier. Merci, Rodri. Merci, Fabien Ruiz. Vous m'avez sauvé mon été. Ah, je suis très mal barré.
Arrête. On en a parlé tout à l'heure en antenne. C'est pas le même Mbappé qu'on a vu là que ces deux dernières saisons. C'est pas le même.
D'ailleurs, petit aparté, est-ce que tu as vu un petit peu son comportement? On a mis en avant justement le leader. Et il souriait d'ailleurs contre le Paraguay. Là, je l'ai senti agacé. C'était vraiment l'indicateur, cette équipe de France.
Carton jaune sur Unai Simon.
Exactement. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la compétition. Donc, ça aussi ça montre aussi un petit peu justement le côté, pas individualiste d'Mbappé, mais on sentait que voilà, son rôle de capitaine, ça commençait à le saouler.
C'est bien de régaler contre Valladolid et Rétafé, mais à un moment donné, quand c'est plus haut le niveau, là.
Bon, Julien, tu as mis ton suite boulevard Ousmane. Je vois que ton compère, JC Drouet, oui, est habillé en golfeur.
Oui. Donc je vous laisse. Il est déjà en vacances, lui. Lâché complet.
Tranquille. Et ça va bien se passer.
En tout cas, merci d'être venu, hein, les gars, parce qu'au bout de deux jours, on repart déjà.
C'est vous, en fait, la guing, c'est vous, quoi.
Heureusement que vous êtes pareil.
Let's go.
Dorian aussi, hein.
It's come. Football's coming. It's come. Ça fait 60 ans qu'il le chante. Il faudrait que ça revienne, quand même.
Il a fait des détours, mais il va y arriver.
Il va y arriver.
60 ans. Tu sais, c'est comme les New York Knicks. Pour moi, 60 ans, c'est comme si tu avais jamais gagné, en vrai. Parce que tous les gens qui ont vécu ça sont
morts.
Soit morts, soit grabataires. Non, mais c'est la vérité.
Les mecs du groupe Tri Riot, ils ont 82 ans.
Ça fait plaisir d'être au palmarès. Mais s'ils gagnent, ça sera comme une première fois.
Moi, pour Harry Kane, je leur fais de la